Germaine de Staël, Delphine, partie 3, lettres 18 à 28 comprises. Lettre 18. Réponse de Delphine à Madame d'Artenat. Bellerive, ce 8 février. Tout ce que vous me dites, Madame, est plein de justesse et d'esprit. Et, ce qui me touche plus encore, votre amitié parfaite se retrouve à chaque ligne de votre lettre. Je me conformerai à vos conseils si je n'étais pas résolue à passer ma vie dans la solitude. Je sais combien je m'expose à la calomnie que vous essayez de combattre avec tant de bonté. Mais quand j'immole au bonheur de Léonce le devoir qui me défendrait peut-être de continuer à le voir, il suffit du moindre de ses désirs pour obtenir de moi le sacrifice de mon existence dans le monde. Il m'a demandé de rester à Bellerive. Si je retournais à Paris, il en serait malheureux. Jugez si je puis songer à revenir. Ah, je devrais braver sa peine pour me retirer en Languedoc, pour m'arracher au danger de sa présence, au tort que j'ai de partager un sentiment que je devrais repousser. Mais lui causer un instant de chagrin pour m'occuper de ce qu'on pourrait appeler mes intérêts, c'est ce que jamais je ne ferai. Je suis sûre que Mathilde est heureuse. Je m'informe jour par jour de sa vie. Je sais jusqu'aux moindres nuances de ses impressions. Si elle découvrait mon attachement pour Léonce, si cet attachement restait pur, l'offensait, je partirais à l'instant. Je partirais peut-être, même sans ce motif, si mes sentiments ne suffisent pas à Léonce, si, dans un moment de courage, je puis renoncer à une situation que je condamne. Jamais alors je ne reverrai Paris. Ceux qui s'occupent de me juger ne me rencontreraient de leur vie, et rien ne pourrait me donner ni des consolations, ni de la douleur. Ce que je n'oublierai point, quoi qu'il arrive, c'est l'amitié protectrice dont vous n'avez cessé de me donner des preuves. Au moment où j'ai reçu votre lettre, je me proposais d'aller passer quelques heures à Paris pour vous exprimer ma reconnaissance. Mais Madame de Mondeville s'étant renfermée à cause du carême dans le couvent où elle a été élevée, j'ai choisi demain pour proposer à Léonce de visiter avec moi une famille du Languedoc établie dans mon voisinage et que depuis longtemps je veux aller voir. Dans peu de jours, je réparerai ce que je perds en ne vous voyant pas. C'est pour vous seul que je puis quitter ma retraite. Pardonnez-moi de ne regretter à Paris que vous. Lettre 19. Léonce à M. Barton. Paris, ce 10 février. Vous me demandez, mon ami, si je suis heureux. Et, déposant la sévérité d'un maître, ce qui vous importe avant tout, m'écrivez-vous, c'est de lire au fond de mon cœur. Pourquoi ne l'avez-vous pas interrogé il y a quelques jours? J'étais plus content de moi. Je crains que la soirée d'hier ne m'ait jeté dans un trouble dont je ne pourrai plus sortir. Vous jugerez mieux de mes sentiments si je vous raconte ce qui s'est passé. Il m'est amer et doux de me le retracer. Depuis plus d'un mois, je goûtais le bonheur de voir tous les jours cet être angélique que vous aviez choisi pour la compagne de ma vie. Des désirs impétueux, des regrets invincibles me saisissaient quelquefois dans les moments les plus délicieux de nos entretiens. Mais enfin, le bonheur l'emportait sur la peine. Je ne sais si maintenant la lutte n'est pas trop forte, si je pourrai jamais retrouver ces impressions douces qui me permettraient de goûter les imparfaites jouissances de ma destinée. Hier, Madame de Mondeville étant absente, je pouvais passer la journée entière à Bellerive. Madame d'Albémar me proposa une promenade après dîner. Elle me dit qu'il s'était établi près de chez elle une famille du Languedoc dont elle croyait connaître le nom, et qu'elle serait bien aise que nous allassions nous en informer. Nous partîmes, et Madame d'Albémar donna rendez-vous à sa voiture à une demi-lieue de Belle-Rive. Lorsque nous approchâmes de l'endroit qu'on nous avait désigné, nous vîmes de loin une maison de paysans, petite mais agréable, et nous entendîmes des voix et des instruments dont l'accord nous parut singulièrement harmonieux. Nous approchâmes. Un enfant qui était sur la porte à faire des boules de neige nous offrit de monter. Sa mère, l'entendant, sortit de chez elle et vint au-devant de nous. Madame d'Albémar reconnut d'abord, quoiqu'elle ne l'eût pas vue depuis 10 ans, Mademoiselle de Senanges, qu'elle avait rencontrée quelquefois dans la société de M. d'Albémar. Mademoiselle de Senanges, à présent Madame de Belmont, accueillie Delphine de l'air le plus aimable et le plus doux. Nous la suivîmes dans la petite chambre dont elle faisait son salon, et nous vîmes un homme d'environ 30 ans, placé devant un piano et faisant chanter une petite fille de 8 ans. Il se leva à notre arrivée. Sa femme s'approcha de lui aussitôt et lui donna le bras pour avancer vers nous. Nous aperçûmes alors qu'il était aveugle. Mais sa figure avait conservé de la noblesse et du charme malgré la perte de la vue. Il régnait dans tous ses traits une expression de calme qui en imposait à la pitié même. Delphine, dont le cœur est si accessible aux émotions de la bonté, se troubla visiblement, malgré ses efforts pour le cacher. Elle fit une question à Madame de Belmont sur les motifs de son départ du Languedoc. « Un procès que nous avons perdu, Monsieur de Belmont et moi, nous a ruinés tout à fait, répondit-elle. J'avais été déjà privée de la moitié de ma fortune, parce qu'une tante m'avait déshéritée à cause de mon mariage. Il ne nous reste plus à mon mari, mes 2 enfants et moi, que 80 louis de rente. Nous avons mieux aimé vivre dans un pays où personne ne nous connaissait que de nous trouver engagés à conserver sans fortune nos anciennes habitudes de société. Ce climat, d'ailleurs, convient mieux à la santé de mon mari que les chaleurs du midi. Et depuis 15 jours que nous sommes ici, nous nous y trouvons parfaitement bien. » Monsieur de Belmont prit la parole pour se féliciter de connaître une personne telle que Madame d'Albémar. Il s'exprima avec beaucoup de grâce et de convenance, et sa femme, se rappelant avec plaisir qu'elle avait vu Madame d'Albémar encore enfant chez ses parents, lui parla de leurs relations communes, avec une simplicité et une sérénité parfaites. Je la regardais attentivement, et je ne voyais pas dans toute sa manière la moindre trace d'une peine quelconque. Elle ne paraissait pas se douter qu'il y eût rien dans sa situation qui pût exciter un intérêt extraordinaire, et fut longtemps sans s'apercevoir de celui qu'elle nous inspirait. Son mari voulut nous montrer son jardin. Il donna le bras à sa femme pour y aller. Elle paraissait avoir tellement l'habitude de le conduire que, pendant un moment qu'elle le remit à Delphine pour aller donner quelques ordres, elle marchait avec inquiétude, se retournait plusieurs fois, et paraissait non pas troublée. C'est une personne trop simple pour s'inquiéter sans motif, mais tout à fait déshabituée de faire un pas sans servir de guide à son mari. Monsieur de Belmont nous intéressait à tous les instants davantage par son esprit et sa raison. Nous la ramenâmes plusieurs fois à parler de ses occupations, de ses intérêts. Il nous répondit toujours avec plaisir, paraissant oublier complètement qu'il était aveugle et ruiné, et nous donnant l'idée d'un homme heureux et tranquille, qui n'a pas dans sa vie la moindre occasion d'exercer le courage, ni même la résignation. Seulement, en prononçant le nom de sa femme, en l'appelant ma chère amie, il avait un accent que je ne puis définir, mais qui retentissait à tous les souvenirs de sa vie, et nous les indiquait sans nous les exprimer. Nous rentrâmes dans la maison, le piano était encore ouvert. Delphine témoigna à monsieur et à madame de Belmont le désir d'entendre de près la musique qui nous avait charmés de loin. Ils y consentirent en nous prévenant que, chantant presque toujours des trios avec leurs filles, ils allaient exécuter de la musique très simple. Le père se mit à préluder au clavecin avec un talent supérieur et une sensibilité profonde. Je ne connais rien de si touchant qu'un aveugle qui se livre à l'inspiration de la musique. On dirait que la diversité des sons et des impressions qu'ils font naître lui rend la nature entière dont il est privé. La timidité, naturellement inséparable d'une infirmité si malheureuse, défend d'entretenir les autres de la peine que l'on éprouve, et l'on évite presque toujours d'en parler. Mais il semble, quand un aveugle vous fait entendre une musique mélancolique, qu'il vous apprend le secret de ses chagrins. Il jouit d'avoir trouvé enfin un langage délicieux qui permet d'attendrir le cœur sans craindre de le fatiguer. Les beaux yeux de Delphine se remplirent de larmes, et je voyais à l'agitation de son sein combien son âme était émue. Mais quand monsieur de Belmont et sa femme chantèrent ensemble, et que leur fille, âgée de 8 ans, vint joindre sa voix enfantine et pure à celle de ses parents, il devint impossible d'y résister. Ils nous firent entendre un air des moissonneurs du Languedoc, dont le refrain villageois est ainsi. Accordez-moi donc, ma mère, pour mon époux, pour mon amant, je l'aimerai tendrement, comme vous aimez mon père. La petite fille levait ses beaux yeux vers sa mère en chantant ces paroles. Son visage était toute innocence. Mais élevée par des parents qui ne vivaient que d'affection tendre, elle avait déjà dans le regard et dans la voix cette mélancolie si intéressante à cet âge, cette mélancolie, pressentiment de la destinée qui menace l'enfant à son insu. La mère reprit le même refrain en disant « Elle t'accorde ta mère pour ton époux, ton amant. Tu l'aimeras tendrement ainsi qu'elle aime ton père. » À ces derniers mots, il y eut dans le regard de madame de Belmont quelque chose de si passionné et tant de modestie succéda bientôt à ce mouvement, que je me sentis pénétrée de respect et d'enthousiasme pour ces nobles liens de famille dont on peut à la fois être si fier et si heureux. Enfin le père chanta à son tour. « Ma fille, imite ta mère, prends pour époux ton amant et chéris-le tendrement comme elle a chéri ton père. » La voix de monsieur de Belmont se brisa tout à fait en prononçant ces paroles, et ce fut avec effort qu'il la retrouva pour répéter tous les trois ensemble le refrain sur un air de montagne qui semblait faire entendre encore les échos des Pyrénées. Leur voix était d'une parfaite justesse. Celle du mari, grave et sonore, mêlait une dignité mâle au doux accent des femmes. Leur situation, l'expression de leur visage, tout était en harmonie avec la sensibilité la plus pure. Rien n'en distrayait, rien ne manquait même à l'imagination. Delphine me l'a dit depuis. L'attendrissement que lui faisait éprouver une réunion si parfaite de tout ce qui peut émouvoir, cet attendrissement était tel qu'elle n'avait plus la force de le supporter. Ses larmes la suffoquaient quand madame de Belmont, se jetant presque dans ses bras, lui dit « Aimable Delphine, je vous reconnais, mais nous croiriez-vous malheureux? Ah, combien vous vous tromperiez !» Et comme si tout à coup la musique avait fondé notre intimité, elle se plaça près de madame d'Albémar et lui dit « Quand je vous ai connue il y a 10 ans, monsieur de Belmont m'aimait déjà depuis quelques années. Mais comment craignait qu'il ne perdît la vue, mes parents s'opposaient à notre mariage. Il devint entièrement aveugle, et je renonçai alors à tous les ménagements que j'avais conservés dans ma famille. Chaque moment de retard, quand je lui étais devenu si nécessaire, me paraissait insupportable. et, n'ayant ni père ni mère, je me crus permis de me décider seul. Je me mariai à l'insu de mes parents et j'eus pendant quelque temps assez à souffrir des menaces qu'ils me firent de rompre mon mariage. Quand il fut bien prouvé qu'ils ne le pouvaient pas, ils travaillèrent à nous ruiner. Ils y réussirent. Mais comme j'avais craint d'abord qu'ils ne parvinssent à me séparer de M. de Belmont, je ne fus presque pas sensible à la perte de notre fortune. Mon imagination n'était frappée que du malheur que j'avais évité. Mon mari, continua-t-elle, donne des leçons à son fils. Moi, j'élève ma fille, et notre pauvreté, nous rapprochant naturellement beaucoup plus de nos enfants, nous donne de nouvelles jouissances. Quand on est parfaitement heureux par ses affections, c'est peut-être une faveur de la Providence que certains revers qui resserrent encore vos liens par la force même des choses. Je n'oserais pas le dire devant M. de Belmont si je ne savais pas que sa cécité ne le rend point malheureux. Mais cet accident fixe sa vie au sein de sa famille. Cet accident lui rend mon bras, ma voix, ma présence à tous les instants nécessaires. Il m'a vu dans les premiers jours de ma jeunesse. Il conservera toujours le même souvenir de moi. Et il me sera permis de l'aimer avec tout le charme, tout l'enthousiasme de l'amour, sans que la timidité causée par la perte des agréments du visage en impose à l'expression de mes sentiments. Je le dirai devant M. de Belmont, madame. Il faut qu'il entende ce que je pense de lui, puisque je ne veux pas le quitter un instant, même pour me priver au plaisir de le louer. Le premier bonheur d'une femme, c'est d'avoir épousé un homme qu'elle respecte autant qu'elle l'aime, qui lui est supérieur par son esprit et son caractère, et qui décide de tout pour elle, non parce qu'il opprime sa volonté, mais parce qu'il éclaire sa raison et soutient sa faiblesse. Dans les circonstances mêmes où elle aurait un avis différent du sien, elle cède avec bonheur, avec confiance, à celui qui a la responsabilité de la destinée commune, et peut seul réparer une erreur quand même il l'aurait commise. Pour que le mariage remplisse l'intention de la nature, il faut que l'homme ait par son mérite réel un véritable avantage sur sa femme, un avantage qu'elle reconnaisse et dont il jouisse. Malheur aux femmes obligées de conduire elles-mêmes leur vie, de couvrir les défauts et les petitesses de leur mari, ou de s'en affranchir en portant seul le poids de l'existence. Le plus grand des plaisirs, c'est cette admiration du cœur qui remplit tous les moments, donne un but à toutes les actions, une émulation continuelle au perfectionnement de soi-même et place auprès de soi la véritable gloire, l'approbation de l'ami qui vous honore en vous aimant. Aimable Delphine, ne jugez pas le bonheur ou le malheur des familles par toutes les prospérités de la fortune ou de la nature. Connaissez le degré d'affection dont l'amour conjugal les fait jouir. Et c'est alors seulement que vous saurez quelle est leur part de félicité sur la terre. Elle ne vous a pas tout dit, ma douce amie, reprit M. de Belmont. Elle ne vous a pas parlé du plaisir qu'elle a trouvé dans l'exercice d'une générosité sans exemple. Elle a tout sacrifié pour moi, qui ne lui offrait qu'une suite de jours, pendant lesquels il fallait tout sacrifier encore. Riche, jeune, brillante, elle a voulu consacrer sa vie à un aveugle sans fortune, et qui lui faisait perdre toutes celles qu'elle possédait. Dans quelques trésors du ciel, il existait un bien inestimable. Il m'a été donné ce bien pour compenser un malheur que tant d'infortunés ont éprouvé dans l'isolement. Et telle est la puissance d'une affection profonde et pure qu'elle change en jouissance les peines les plus réelles de la vie. Je me plais à penser que je ne puis faire un pas sans la main de ma femme. que je ne saurais pas même me nourrir si elle n'approchait pas de moi les aliments qu'elle me destine. Aucune idée nouvelle ne ranimerait mon imagination si elle ne me lisait pas les ouvrages que je désire connaître. Aucune pensée ne parvient à mon esprit sans le charme que sa voix lui est prête. Toute l'existence morale m'arrive par elle, empreinte d'elle. Et la Providence, en me donnant la vie, a laissé à ma femme le soin d'achever ce présent qui serait inutile et douloureux sans son secours. Je le crois, dit encore Monsieur de Belmont, j'aime mieux que personne, car tout mon être est concentré dans le sentiment. Mais comment se fait-il que tous les hommes ne cherchent pas à trouver le bonheur dans leur famille? Il est vrai que ma femme, et ma femme seule, pouvait faire du mariage un sort si délicieux. Cependant, il me manque de n'avoir jamais vu mes enfants. Mais je me persuade qu'ils ressemblent à leur mère. De toutes les images que mes yeux ont autrefois recueillies, il n'en est qu'une qui soit restée parfaitement distincte dans mon souvenir. C'est la figure de ma femme. Je ne me crois pas aveugle auprès d'elle tant que je me représente vivement ses traits. Avez-vous remarqué combien sa voix est douce? Quand elle parle, elle accentue gracieusement et mollement, comme si elle aimait à soigner les plaisirs qui me restent. Je sens tout, je n'oublie rien. Un serrement de main, une voix émue ne s'efface jamais de mon souvenir. Ah, c'est une existence heureuse que de savourer ainsi les affections et leurs charmes, d'en jouir sans éprouver jamais une de ces inconstances du cœur qu'amène quelquefois les splendeurs éclatantes de la fortune ou les dons brillants de la nature. Néanmoins, quoique mon sort ne puisse se comparer à celui de personne, je le dis, continua-t-il, au grand de la terre, au plus beau, au plus jeune. Il n'est de bonheur pendant la vie que dans cette union du mariage, que dans cette affection des enfants qui n'est parfaite que quand on chérit leur mère. Les hommes, beaucoup plus libres dans leur sort que les femmes, croient pouvoir aisément suppléer aux jouissances de la vie domestique. Mais je ne sais quelle force secrète la Providence a mise dans la morale. Les circonstances de la vie paraissent indépendantes d'elle. Et c'est elle seule, cependant, qui finit par en décider. Toutes les liaisons hors du mariage ne durent pas. Des événements terribles ou des dégoûts naturels brisent les liens qu'on croyait les plus solides. L'opinion vous poursuit, l'opinion, de quelque manière, insinue ses poisons dans votre bonheur. Et quand il serait possible d'échapper à son empire, peut-on comparer le plaisir de se voir quelques heures au milieu du monde, quelques heures interrompues, avec l'intimité parfaite du mariage? Que serais-je devenu sans elle? Moi qui ne devais porter mes malheurs qu'à celle qui pouvait s'enorgueillir de les partager. Comment aurais-je fait pour lutter contre l'ordre de la société, moi que la nature avait désarmée? Combien l'abri des vertus constantes et sûres ne m'était-il pas nécessaire à moi, qui ne pouvais rien conquérir, et qui n'avait pour espoir que le bonheur qui viendrait me chercher. Mais ce ne sont point des consolations que je possède, c'est la félicité même. Et je le répète avec assurance, celui qui n'est point heureux par le mariage est seul, oui, partout seul, car il est tôt ou tard menacé de vivre sans être aimé. Monsieur de Belmont prononça ces paroles avec tant de chaleur qu'elles jetèrent mon âme dans une situation violente. Je vous l'avoue, ce que j'éprouve quand une circonstance ranime en moi la douleur de n'avoir pas épousé Madame d'Albémare. Ce que j'éprouve tient beaucoup de cet état que les anciens auraient expliqué par la vengeance des furies. quelquefois, cette douleur semble dormir dans mon sein. Mais quand elle se réveille, je sens qu'elle ne m'a jamais quittée et que tous les jours écoulés me sont retracés par les regrets les plus amers. Madame d'Albémare s'aperçut que j'étais saisie par ces mouvements impétueux et déchirants. En effet, j'avais résisté longtemps, mais tant d'émotions qui portaient sur la même blessure l'avaient enfin rendue trop douloureuse. Delphine se leva et dit qu'elle voulait partir. Le temps menaçait de la neige. Monsieur et Madame de Belmont voulurent l'engager à rester. Elle me regarda et vit, je crois, que mon visage était entièrement décomposé, car elle répéta vivement que sa voiture l'attendait à 4 pas de la maison et qu'elle était forcée de s'en aller. Elle promit de revenir. Monsieur et Madame de Belmont et leurs 2 enfants la reconduisirent jusqu'à la porte, avec cette affection qu'elle inspire si vite à quiconque est digne de l'apprécier. Je lui donnai le bras sans rien dire, et nous marchâmes ainsi quelque temps. Arrivés à l'endroit où la voiture devait l'attendre, nous ne la trouvâmes point. On avait mal entendu nos ordres, et la neige commençait à tomber avec une grande abondance. « J'ai bien froid, » me dit-elle. Ce mot me tira des pensées qui m'absorbaient. Je la regardais. Elle était fort pâle, et je craignais que sa santé ne souffrît du chemin qui lui restait encore à faire. Je la suppliais de me permettre de la porter, pour que ses pieds, au moins, ne fussent pas dans la neige. Elle s'y refusa d'abord. Mais son état étant devenu plus alarmant, j'insistais peut-être avec amertume, car j'étais agitée par les sentiments les plus douloureux. Delphine consentit alors à ce que je désirais. Elle espérait, j'ai cru le voir, que mes impressions s'adouciraient par le plaisir de lui rendre au moins ce faible service. Mon amie, je la portais pendant 1/2 lieue avec des émotions d'une nature si vive et si différente que mon âme en est restée bouleversée. Tantôt, la fièvre de l'amour me saisissait en la pressant sur mon cœur, et je lui répétais qu'il fallait qu'elle fût à moi comme mon épouse, comme ma maîtresse, comme l'être enfin qui devait confondre sa vie avec la mienne. Elle me repoussait, soupirait et menaçait de refuser mon secours. Une fois, la rigueur du froid la saisit tellement qu'elle pencha sa tête sur moi, et je la soulevais comme si elle eût été sans vie. Je regardais le ciel dans un mouvement inexprimable. Je ne sais ce que je voulais, mais si elle était morte dans mes bras, je l'aurais suivie, et je ne sentirais plus la douleur qui me poursuit. Enfin nous arrivâmes, et mes soins la rétablirent entièrement. J'étais impatient de la quitter. Je ne me trouvais plus bien à Bellerive, dans ces lieux qui faisaient mes délices, malheureux que je suis. Pourquoi fallait-il que je visse le spectacle d'une union si heureuse? Aveugles, ruinés, relégués dans un coin de la terre, ils sont heureux par l'amour dans le mariage. Et moi, qui pouvais goûter ce bien au sein de toutes les prospérités humaines, j'ai livré mon cœur à des regrets dévorants qui n'en sortiront qu'avec la vie. Lettre 20. Delphine à Léonce. Hier, vous n'êtes resté qu'un quart d'heure avec moi. À peine m'avez-vous parlé. En me quittant, j'ai vu que vous alliez dans la forêt au lieu de retourner à Paris. J'ai su depuis que vous n'êtes rentré chez vous qu'au jour. Vous avez passé cette nuit glacée, seule, à cheval, non loin de ma demeure. C'était vous, pourtant, qui aviez voulu abréger notre soirée. Inquiète, troublée, je suis restée à ma fenêtre pendant cette même nuit. Léonce, occupés ainsi l'un de l'autre, nous craignions de nous parler. Que me cachez-vous, juste ciel? Ne pouvons-nous plus nous entendre? Lettre 21. Léonce à Delphine. J'ai passé une nuit plus douce que tous les jours qui me sont destinés. Cette tristesse de l'hiver me plaisait. Je n'avais rien à reprocher à la nature. Mais vous, vous qui voyez dans quel état je suis, daignez-vous en avoir pitié? Ce frisson que les longues heures de la nuit me faisaient éprouver m'était assez doux. N'est-ce pas ainsi que s'annonce la mort? Et ne sentez-vous pas qu'il faudra bientôt y recourir? Vous me demandez si je vous cache un secret. L'amour en a-t-il? Si vous partagez ce que j'éprouve, ne me comprendriez-vous pas? Cependant, vous me le demandez, ce secret, le voici. Je suis malheureux. N'exigez rien de plus. Lettre 22. Delphine à Léonce. Vous êtes malheureux, Léonce? Ah, le ciel m'inspirait bien quand je voulais partir, quand je refusais de croire à vos serments. Vous me juriez qu'en restant, je comblerais tous les vœux de votre cœur. Vous m'avez séduite par cet espoir, et déjà vous ne craignez plus de me le ravir. Autrefois, les mêmes sentiments nous animaient, et maintenant, hélas, qu'est devenu cet accord? Savez-vous ce que j'éprouvais? Je jouissais avec délices de notre situation. Insensée que je suis. J'étais heureuse, je vous l'aurais dit. Oh, que vous avez bien réprimé cette confiance imprudente. Mais d'où vient donc, Léonce, cette funeste différence entre nous? Vous croiriez-vous le droit de me dire que vous êtes plus capable d'aimer que moi? Avec quel dédain je recevrais ce reproche? Je connais des sacrifices que vous ne pourriez pas me faire. Il n'en est pas un au monde qui me parût mériter seulement votre reconnaissance, tant il me coûterait peu. Vous ai-je parlé du tort que me faisait mon séjour à Bellerive? Loin de redouter les peines que mon amour pourra me causer quand je m'égare dans les chimères qui me plaisent, j'aime à supposer des dangers de tout genre, que je braverai avec transport pour vous. Oserez-vous prétendre que le don, ou plutôt l'avilissement de moi-même, est le sacrifice que je dois à ce que j'aime? Mon ami, ce serait notre amour que j'immolerais, si je renonçais à cet enthousiasme généreux qui anime notre affection mutuelle. Si je cédais à vos désirs, nous ne serions bientôt plus que des amants sans passion, puisque nous serions sans vertu. Et nous aurions ainsi bientôt désenchanté tous les sentiments de notre cœur. Si je pouvais manquer maintenant au dernier devoir, que je respecte encore, quelle serait ma conduite à mes propres yeux? Je me serais établie dans une solitude pour y passer ma vie seule avec l'homme que j'aime, avec l'époux d'une autre. J'y resterais sans combat, sans remords, j'aurais été moi-même au-devant de ma honte. Oh, Léonce, je ne suis déjà peut-être que trop coupable. Veux-tu donc dégrader l'image de Delphine? Veux-tu la dégrader dans ton propre souvenir? Qu'elle parte et tu ne l'oublieras jamais. Qu'elle meure et tu verseras des larmes sur sa tombe. Mais si tu la rendais criminelle, tu la chercherais vainement telle qu'elle était, dans le monde, dans ta mémoire, dans ton cœur. Elle n'y serait plus. Et sa tête humiliée se pencherait vers la terre, n'osant plus regarder ni le ciel, ni Léonce. Hier, n'étais-tu pas égarée quand tu me reprochais d'être insensible à l'amour? Ton accent était âpre et sombre. Tu m'accusais de ne pas savoir aimer. Ah, crois-tu que mon amour n'est pas aussi sa volupté, son délire? La passion innocente a des plaisirs que ton cœur blasphème. Quand tu n'avais pas encore troublé mes espérances, quand je me flattais de passer ma vie entière avec toi, il n'existait pas dans l'imagination un bonheur que l'on put comparer au mien. Aucun chagrin, aucune incertitude ne me rendait les heures difficiles. Je me sentais portée dans la vie comme sur un nuage. À peine touchais-je la terre de mes pas. J'étais environnée d'un air azuré, à travers lequel tous les objets s'offraient à moi sous une couleur riante. Si je lisais, mes yeux se remplissaient des plus douces larmes à chaque mot que je rapportais à toi. Je m'attendrissais en faisant de la musique, car je t'adressais toujours ce langage mystérieux, ces émotions indéfinissables que l'harmonie nous fait éprouver. J'avais en moi une existence surnaturelle que tu m'avais donnée, une inspiration d'amour et de vertu qui faisait battre mon cœur plus vite à tous les moments du jour. J'étais heureuse ainsi, même dans ton absence. L'heure de te voir approchait et la fièvre de l'espérance m'agitait. Cette fièvre se calmait quand tu entrais dans ma chambre. Elle faisait place aux sentiments délicieux qui se répandaient dans mon cœur. Je te regardais, je considérais de nouveau tous les objets qui m'entourent, étonnée de la magie, de l'enchantement de ta présence, et demandant au ciel si c'était bien la vie qu'un tel bonheur, ou si mon âme déjà n'avait pas quitté la terre. N'y avait-il donc point d'amour dans cette ivresse? Et quand tu m'environnais de tes bras, quand je reposais ma tête sur ton épaule, si je renfermais dans mon cœur quelques-uns de mes mouvements, ce cœur en devenait plus tendre. Il eût perdu de sa sensibilité même s'il n'avait su rien réprimer. J'ai voulu, Léonce, ne voir dans votre peine que vos inquiétudes sur mon sentiment pour vous. J'ai dissipé ces inquiétudes. Si vous vous permettiez encore les mêmes plaintes, il ne serait plus digne de moi d'y répondre. Lettre 23. Léonce à Delphine. Ma volonté est soumise à la vôtre, mais je ne sais quel accablement douloureux altère en moi les principes de la vie. Hier, en revenant de chez vous, je pouvais à peine me soutenir sur mon cheval. J'essaierai d'aller à Bellerive ce soir, mais j'ai à peine la force d'écrire. Adieu. Lettre 24. Delphine à Léonce. Léonce, je vous crois généreux. Pourquoi donc vous cacherais-je ce qui est dangereux pour moi? Vous savez, vous devez savoir, que si vous me rendiez coupable, je n'y survivrais pas. Et vous me connaissez assez pour ne pas imaginer que j'imite ces femmes dissimulées qui veulent se laisser vaincre après avoir longtemps résisté. Si vous ne voulez pas que je meure de douleur ou de honte, je dois obtenir, en vous confiant le secret de ma faiblesse, que votre propre vertu m'en défende. Ô Léonce, si vous souffrez, si vos peines altèrent quelquefois votre santé, ne vous montrez pas à moi dans cet état. Hier, en vous voyant si pâle, si chancelant, je me sentis défaillir. Quand l'image de votre danger se présente à moi, toute autre idée disparaît à mes yeux. Il se passait hier dans mon cœur une émotion inconnue qui affaiblissait ma raison, ma vertu, toutes mes forces. Et j'éprouvais un désir inexprimable de ranimer votre vie aux dépens de la mienne, de verser mon sang pour qu'il réchauffât le vôtre, et que mon dernier souffle rendît quelque chaleur à vos mains tremblantes. Léonce, en vous avouant l'empire de la souffrance sur mon cœur, c'est vous interdire à jamais de m'en rendre témoin. Dérobez-la moi s'il est possible. Cette prière n'est pas d'une âme dure, et vous l'adressez si vous estimez beaucoup. Ne répondez pas à cette lettre. En l'écrivant, mon front s'est couvert de rougeur. Je vous ai imploré, protégez-moi, mais sans me rappeler que je vous l'ai demandé. Lettre 25. Léonce à Delphine. Delphine, je veux respecter vos volontés, je le veux. Cette résignation est tout ce que je puis vous promettre. Vous ne connaissez pas les sentiments qui m'agitent. Je leur impose silence. Je ne puis vous les confier. Je vous adore et je crains de vous parler d'amour. Que deviendrai-je? Et cependant tu m'aimes et tu voudrais que je fusse heureux. J'ai cru que je le serais, je me suis trompée. Essayons de ne pas nous parler de nous, de transporter notre pensée sur je ne sais quel sujet étranger dont nous ne nous occuperons qu'avec effort, oui, avec effort. Puis-je ne pas me contraindre? Puis-je m'abandonner à ce que j'éprouve? Si je m'y livre un jour, dans l'état où m'ont jeté mes désirs et mes regrets, si je m'y livre un jour, l'un de nous deux est perdu. Lettre 26. Delphine à Léonce. L'homme d'affaires de Madame de Mondeville est venu voir le mien, pour lui parler de 60 000 livres que j'ai cautionnées pour Madame de Vernon et de 40 autres que je lui avais prêtées il y a 2 ou 3 ans. Vous sentez bien que je ne veux pas que vous acquittiez ces dettes, surtout à présent que vos affaires sont en désordre. Mais il serait tout à fait inconcevable pour moi d'avoir l'air de rendre un service à Madame de Mondeville. Hélas, j'ai des torts envers elle, et si jamais elle les découvre, je ne veux pas qu'elle puisse penser que j'ai cherché à enchaîner mon ressentiment par des obligations de cette nature. Ayez donc la bonté de dire à Madame de Mondeville que je ne veux pas que de 10 ans il soit question en aucune manière des dettes que sa mère a contractées avec moi. Mais persuadez-lui bien que je me conduis ainsi par amitié pour vous, ou à cause d'une promesse faite à sa mère. Supposez tout ce que vous voudrez, seulement arrangez tout, pour que Madame de Mondeville ne puisse pas se croire liée personnellement envers moi par la reconnaissance. Lettre 27. Léonce à Delphine. J'ai exécuté fidèlement vos ordres auprès de Madame de Mondeville. Que parlez-vous de lui épargner de la reconnaissance? Avez-vous donc oublié que c'est vous qui l'avez dotée, que, sans votre générosité fatale, je serais peut-être libre encore? Ah, Dieu! Ne puis-je donc repousser ce souvenir, et tout dans la vie doit-il me le rappeler? Je n'ai pu empêcher Mathilde de vous voir aller demain. Elle est touchée de vos procédés envers nous, quoique j'en ai diminué le mérite selon vos intentions. Elle voulait que je l'accompagnasse à Belle-Rive. Cela m'est impossible. Je ne veux pas vous voir ensemble. Je ne veux pas la trouver dans des lieux que vous habitez. Il me semble que son image y resterait. Permettez-moi de vous prier, ma Delphine, de recevoir Mathilde comme vous l'auriez fait avant la mort de sa mère. Vous êtes capable de vous troubler en la voyant, comme si vous aviez des torts envers elle. Hélas, ne lui offrez-vous pas ma peine en sacrifice, n'est-ce point assez? Conservez avec elle la supériorité qui vous convient. Il serait difficile de lui donner des soupçons. Jamais elle n'a été plus calme, plus heureuse. Mais la seule personne qu'elle observe avec soin, c'est vous. Non par jalousie, mais pour se démontrer à elle-même qu'il n'y a de bonheur que dans la dévotion, et que toutes vos qualités et vos agréments vous sont inutiles, parce que vous n'êtes pas dans les mêmes opinions qu'elle. Ne lui montrez donc, je vous prie, ni tristesse, ni timidité, et souvenez-vous qu'elle vous doit, et uniquement à vous, la conduite que je tiens envers elle. C'est une personne à laquelle je n'ai rien à reprocher, mais qui me convient si peu que j'aurais cherché des prétextes pour m'éloigner si vous ne m'aviez pas imposé son bonheur pour prix de votre présence. Je le fais, ce bonheur, sans qu'il m'en coûte, grâce au ciel, la moindre dissimulation. Elle ne compte dans la vie que les procédés, comme elle ne voit dans la religion que les pratiques. Elle ne s'inquiète ni du regard, ni de l'accent, ni des paroles, qui sont mille fois plus involontaires que les actions. Elle-même, je le crois, et si quelque circonstance éclatante excitait sa jalousie, elle pourrait être très vive et très amère. Mais tant que je ne manquerai pas à la voir chaque jour, elle n'imaginera pas que mon cœur puisse être occupé d'un autre objet. Il importe donc à son repos comme à votre dignité, ma chère Delphine, que vous ne changiez rien à votre manière d'être avec elle. Adieu. Vous triomphez. Sais-je assez me contenir? Je parle comme si mon cœur était calme. Delphine, un jour, si tous ces efforts étaient vains, s'il fallait choisir entre ma vie et mon amour, ah, que prononceriez-vous? Lettre 28. Delphine à Léonce. Quel cruel moment je viens de passer. Mathilde est venue à 6 heures du soir et ne m'a quitté qu'à 9. Je crois qu'elle s'était prescrit à l'avance ces 3 heures, les plus pénibles dont je puisse me faire l'idée. Je craignais d'être fausse en lui montrant de l'amitié. Je trouvais imprudent et injuste de la traiter avec froideur. Et chaque mot que je disais me coûtait une délibération et une incertitude. Je ne pouvais me défendre aussi de l'observer, de la comparer à moi. Et j'étais mécontente des diverses impressions que me causait tour à tour la beauté qu'elle possède et les grâces dont elle est privée. Enfin, ce qui a fini par dominer en moi, c'est l'amitié d'enfance que j'ai toujours eue pour elle. Et je me sentais attendrie par sa présence, sans qu'elle eût provoqué d'aucune manière cette disposition. Elle m'a demandé mes projets. Je lui ai dit que je retournais ce printemps au Languedoc. Il m'a été impossible de lui répondre autrement. Je ne sais quelle voix a parlé pour moi sans qu'aucune réflexion précédente m'eût suggéré ce dessein. Mathilde m'a témoigné plus d'intérêt que jamais. Et sa bienveillance me faisait tellement souffrir que, s'il eût été dans son caractère de s'exprimer avec plus de sensibilité, je me serais peut-être jetée à ses pieds, par un mouvement plus fort que ma volonté et ma raison. Mais vous connaissez sa manière. Elle éloigne la confiance. Elle oblige les autres à se contenir comme elle se contient à elle-même. Le seul moment où je lui ai trouvé un accent animé, et qui sortait de ce ton uniforme et mesuré qu'elle conserve presque toujours, c'est lorsqu'elle m'a parlé de vous. « Tout mon bonheur est en lui, » m'a-t-elle dit, « et je n'ai point d'autre affection sur cette terre. » Ces mots m'ont ébranlé. Mes yeux se sont remplis de larmes. Mais alors Mathilde, craignant, comme sa mère, tout ce qui peut conduire à l'émotion, s'est levée subitement, et m'a fait des questions sur l'arrangement de ma maison. Nous ne nous sommes entretenus depuis ce moment que sur les sujets les plus indifférents, et nous nous sommes quittés après 3 heures de tête-à-tête, comme si nous avions eu une conversation de quelques minutes au milieu d'un cercle nombreux. Mais pendant ces heures, elle était calme, et moi, combien j'étais loin de l'être. Ah, Léonce, je suis coupable, je le suis sûrement, car j'éprouvais tout ce qui caractérise le remords, le trouble, les craintes, la honte. Je redoutais de me retrouver seule après son départ. Puis-je méconnaître, dans ce que je souffrais, les cruels symptômes du mécontentement de soi-même? J'ai reçu ce matin une lettre de Madame Dervin qui m'annonce son arrivée dans un mois, et me parle avec estime et confiance de la sécurité qu'elle éprouve en me remettant l'éducation de sa fille. Dites-le-moi, mon ami, puis-je accepter un tel dépôt? Quel exemple Isaure aura-t-elle sous les yeux? Comment pourrais-je la convaincre de mon innocence lorsque je dois surtout lui conseiller de ne pas imiter ma conduite? Sur 1000 femmes, à peine une échapperait-elle aux séductions auxquelles je m'expose, Léonce? Je ne suis pas encore criminelle, mais déjà je rougis quand on parle des femmes qui le sont. J'éprouve un plaisir condamnable quand j'apprends quelques traits des faiblesses du cœur. Je me surprends à croire que la vertu n'existe plus. J'étais d'accord avec moi-même autrefois. Maintenant je me raisonne sans cesse, comme si j'avais quelqu'un à convaincre. Et quand je me demande à qui j'adresse ces discours continuels, je sens que c'est à ma conscience dont je voudrais couvrir la voie. Mon ami, si je persiste longtemps dans cet état, j'émousserai dans mon cœur cette délicatesse vive et pure, dont le plus léger avertissement disposait souverainement de moi. Quel intérêt mettrai-je au dernier reste de la morale que je conserve encore, si je flétris mon âme en cessant d'aspirer à cette vertu parfaite qui avait été jusqu'à ce jour l'objet de mes espérances. Léonce, je t'aime avec idolâtrie. Quand je te vois, je me sens comme transporté dans un monde de félicités idéales. Et cependant, je voudrais avoir la force de me séparer de toi. Je voudrais avoir fait à la morale, à l'être suprême, cet héroïque sacrifice, et que ton souvenir et que l'amour que tu m'inspires fussent à jamais gravés dans une âme devenue sublime par son courage. Ô mon ami, que ne me soutiens-tu dans ces élans généreux? Un jour, nous tenant par la main, nous nous présenterions avec confiance au Créateur de la nature. Si l'homme juste, luttant contre l'adversité, est un spectacle digne du ciel, des êtres sensibles triomphant de l'amour méritent plus encore l'approbation de Dieu même. Aide-moi, je puis me relever encore. Mais si tu persistes, je ne serai bientôt plus qu'un caractère abattu sous le poids du repentir, une âme douce mais commune, et la plus noble puissance du cœur, celle des sacrifices, s'affaiblirait tout à fait en moi. Sais-je enfin si je ne devrais pas m'éloigner de vous pour vous-même? Depuis quelque temps, n'êtes-vous pas cruellement agité? Puis-je, hélas, puis-je me dire, du moins, que c'est pour votre bonheur que votre ami dégrade son cœur en résistant à ses remords?